Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Pascal Masseri Kabissimoi.
Au sommaire de cette édition, le calme est revenu ce samedi à Mambasa Centre. Nous sommes en Ituri après des folles rumeurs selon lesquelles la présence des casques bleus va déstabiliser la zone. La MONUSCO invite les leaders communautaires à lutter contre la désinformation. L'épreuve hors session de l'examen d'État du 23 mai prochain coûtera 47 000 francs congolais. Le directeur de la province éducationnelle du Congo central met en garde les chefs d'établissement privés contre la majoration des frais. Notre invité, c'est le directeur général adjoint du Fonds pour l'inclusion financière en RDC. Patrick Nkongo a débloqué plus des millions de dollars américains pour assurer la promotion des femmes paysannes de Beni Boutembo. Madame, messieurs, bonsoir. En Ituri, le calme est revenu ce samedi à Mambasa Centre après une protestation contre les casques bleus. Selon la société civile, les activités économiques et scolaires ont repris grâce à l'intervention des autorités locales qui ont sensibilisé la population à ne pas céder aux rumeurs, selon lesquelles la présence des casques bleus va déstabiliser la zone. De son côté, la MONUSCO invite les leaders communautaires à jouer un rôle positif pour lutter contre la désinformation. Ainsi, permettre la protection des civils. Reportage à Boulien d'Isaac Remoyopé.
Les boutiques, marchés, écoles ont rouvert leurs portes depuis samedi matin après une journée de paralysie totale des activités à Mambasa Centre. Presque toutes les routes étaient barricadées par des jeunes qui protestaient contre la présence de la brigade d'intervention de la MONUSCO en mission jeudi dans ces milieux pour appuyer les FARDC dans les opérations contre les ADF. Pour les manifestants, ces casques bleus seraient des connivences avec l'ennemi. L'administrateur du territoire a réuni les leaders communautaires pour dissiper ces rumeurs. Selon la société civile, les forces de la MONUSCO ont quitté Mambasa Centre samedi matin. John, vous l'avez.
Les opérateurs économiques ont ouvert les portes après, bien entendu, le retrait de casques bleus à Mambasa Centre. On nous a enjoint de pouvoir parler à tout le monde pour que les barricades soient enlevées.
Du côté de la MONUSCO, on indique que ces casques bleus poursuivent leur patrouille de sécurisation des accès routiers le long des RN 27 et 4 où ils combattent ces ADF, toujours dans les territoires de Mambasa aux côtés des FARDC. Les responsables de l'information publique de la MONUSCO en Ituri invitent les leaders communautaires à jouer un rôle positif pour la protection des civils. Jean-Tobi Okala.
Nous invitons la population à ne pas se tromper des cibles. La cible, c'est l'ennemi que nous combattons tous. Gouvernement congolais, MONUSCO, population civile. Nous invitons les leaders communautaires dans ces zones à jouer un rôle positif pour permettre la protection des civils par l'État appuyé par MONUSCO.
Bounia Isakare Moyope, Radio Okapi.
On reste en Ituri où des miliciens de la CODECO ont attaqué hier le tronçon Bounia-Mahagi. Selon des sources sécuritaires, ces assaillants ont incendié un camion et pillé des marchandises. Les FARDC patrouillent pour sécuriser la zone. Retrouvons encore une fois Isaac Remoyopé.
Selon des sources concordantes, des miliciens de la CODECO s'étaient regroupés vendredi matin au village de Gokalou, à 2 km de Djougou Centre, sur la RN 27. Vers 13h, ils ont tendu l'embuscade contre certains véhicules vers Tsali, dans les territoires de Djougou. Il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, affirment des sources de sécurité. Mais on déplore l'incendie d'un camion en provenance de Bounia et le pillage des marchandises dans d'autres véhicules. D'autres conducteurs ont rebroussé chemin à Djougou Centre et à Fataki, où il y a la présence des FARDC. Des militaires qui étaient à bord des deux jeeps de l'armée qui étaient des passages sur cette tronçon ont repoussé ces hommes armés. Mais pour les chauffeurs, la menace de ces groupes armés est permanente et ils plaident pour le renforcement des dispositifs sécuritaires sur cette route. Le porte-parole de l'armée indique que des patrouilles des FARDC sont renforcées pendant que les opérations militaires sont en cours. Le lieutenant Jean Gongo.
C'est un cas isolé. Il y a des patrouilles motorisées qui se font déjà. Donc, il est question ici de redynamiser ces patrouilles et permettre la libre circulation. Hormis cela, les opérations sont menées pour sur la RN.
Notre groupe de miliciens de la CODECO a tenté de faire incursion la nuit d'hier à Djougou Centre sur la RN 27. Ils ont kidnappé des femmes et des bébés après échange de tirs pendant environ 2 heures avec les FARDC qui les ont repoussés. Bounia Isakare Moyope, Radio Okapi.
Menace d'une attaque terroriste aux portes de Goma. Le vice-gouverneur du Nord Kivu a tenu hier vendredi un conseil de sécurité élargi aux armateurs. Il assure que les FARDC et la police sont en état d'alerte maximale pour contrer toute menace. Explication de Denise Lokesso.
La réunion à laquelle ont été conviés les armateurs avait pour but de définir et d'analyser la nature de la menace, mais également de proposer des dispositions à envisager. Ces dernières n'ont pas été dévoilées aux médias. En revanche, le maire de Goma, dans un communiqué officiel hier vendredi, invite les armateurs au respect strict des dispositions requises en rapport avec les heures d'embarcation et d'accostage de chaque bateau et unité flottante. C'est pour permettre à chaque service de mieux faire son travail. Le commissaire François Kabeya Makossa appelle la population de Goma au calme et à vaquer normalement à ses activités, étant donné que l'armée, la police et autres services de l'ordre et de sécurité font la veille. L'autorité urbaine exhorte une conscience patriotique et républicaine requise pour tout citoyen en cette période de l'état de siège. Pour rappel, dans un message d'alerte jeudi soir, l'ambassade des États-Unis à Kinshasa a prévenu ses ressortissants d'une éventuelle attaque terroriste sur un bateau au port de Goma, ce qui a fait paniquer certains voyageurs par bateau, selon plusieurs sources. Goma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
On reste à Goma où le député provincial Jean-Paul Paluku a été libéré hier de la prison centrale de Mounzenze après 3 mois de détention. La justice militaire le poursuivait pour outrage au chef de l'État et incitation à la révolte, des infractions qu'il déclare non fondées. Denis Lukeso.
Arrêté le 6 avril dernier à Goma, le député Ngangondi Jean-Paul a été transféré à la prison centrale de Mounzenze où il a passé 3 mois en détention. Au cours d'une audience, la cour militaire s'est déclarée incompétente pour statuer sur son dossier, avait transféré ainsi son dossier à la juridiction civile. Au motif, les faits pour lesquels il était réproché concernaient les juridictions civiles. Après analyse du dossier, son fond étant vide, le parquet près la cour d'appel du Nord Kivu a fait la main levée de la détention. Ainsi, cet élu a recouvré sa liberté totale vendredi. Le député Ngangondi remercie les autorités de la justice pour cette option prise. Il dit espérer qu'avec les retours de la justice civile aux affaires, à l'expédition des traitements des dossiers, il le souhaite autant pour la juridiction militaire afin de redorer l'image de la justice.
Depuis qu'ils ont commencé déjà, on est en train de vider petit à petit la prison. C'est dont nous encourageons et nous voulons voir même les autres qui sont chez les militaires là-bas et se conformer aussi aux lois de la République pour que nous puissions redorer l'image de l'État congolais.
Goma, Denis Lukeso, Radio Kapi.
Dans un autre chapitre, au Congo central, les frais de participation aux épreuves hors session de l'examen d'État prévu le 23 mai prochain sont fixés à 47 000 francs congolais. Le directeur de la province éducationnelle met en garde les chefs d'établissement des écoles privées contre la majoration de ces frais. John Bopilé affirme que les malles contenant les questionnaires seront acheminés bientôt dans les différentes sous-divisions. Il a dit à Nana Plurich Mambou.
Les questionnaires sont déjà ici à Matadi. C'est au niveau de la mer que ça se trouve. Dès ce lundi, nous commençons les multitudes de réunions. Et le vrai problème, c'est au niveau des écoles privées où les chefs d'établissement ou encore des promoteurs qui ne respectent pas. Parfois, ils demandent plus que ce qu'on les a demandé. Les chefs de sous-division et les inspools sont à l'œil pour voir à ce que toutes les écoles demandent tel qu'il a été demandé par l'autorité provinciale. Là, je demande à tous les parents et élèves, tous les chefs d'établissement, de se comporter dignement et que les parents doivent savoir que les frais demandés par les gouverneurs est 47 000 francs. Ça, c'est pour la dissertation et qu'ils doivent payer que ce montant-là, pas plus que ça. Pour les frais des examens, l'arrêté a été déjà signé, 45 000 francs, mais nous n'avons pas encore autorisé aux inspools de prendre cet argent. Tout ce que nous avons autorisé jusqu'à présent, c'est les 47 000 francs pour la dissertation. Oui, la mise en garde est que pour les chefs d'établissement qui demandent plus et qui doivent savoir, surtout pour les écoles privées, les retraits des arrêtés de leurs écoles. Et tandis que pour les chefs d'établissement des écoles publiques, ça sera tout simplement la suspension du chef d'établissement.
Et puis, l'inspecteur principal de la province éducationnelle du Maniema a ramené à Kindu les malles contenant le questionnaire de l'épreuve hors session de l'examen d'État. Il revient d'une mission ici à Kinshasa. Joseph Diangenda le dit à Florence Kizalunga.
Effectivement, nous sommes partis à Kinshasa pour les retraits des mâles des épreuves de la hors session et nous avons toutes ces mâles ici dans la ville de Kindu et nous confirmons que le 23 mai, il y aura les épreuves de la hors session dans notre province éducationnelle. Oui, nous leur demandons de mettre beaucoup de sériosité sur le plan de la préparation, d'éviter des distractions, des gens qui peuvent les sensibiliser dans le cadre de la tricherie. Il n'y a que les études, il n'y a que la concentration. Il y a que la confiance en soi qui peut aider au candidat de réussir. En plus, il ne faut pas attendre le dernier jour pour commencer à payer les frais de participation. Il faut déjà payer les frais de participation en amont pour que les premiers jours qu'il n'y ait pas perturbation. Les enseignants, nous leur demandons à cette période ici cristiale de faire un encadrement de pointe. Donc les professeurs de français, ils doivent faire la remédiation là où ça n'a pas marché, là où ils trouvent que dans les parcours, il y a des petites horaires. Les enseignants doivent aussi faire beaucoup d'exercices pour que les enfants soient aux pointes de cette épreuve.
Santé à présent. Le Haut-Katanga organise du 17 au 23 mai prochain une campagne de vaccination contre le coronavirus. Pendant cette période, des sites fixes et mobiles seront déployés afin d'atteindre beaucoup de personnes à vacciner. Objectif affiché, prévenir une cinquième vague qui menace en ce moment la province à cause de sa proximité avec des pays de l'Afrique australe où des cas de coronavirus ont été notifiés. Des précisions avec le ministre provincial de la Santé. Les propos de Joseph Sambi Boulanda ont été sélectionnés par Jean Gandou.
La semaine passée, nous avons notifié 19 cas, contrairement à d'autres semaines, ce qui prouve que les cas commencent à augmenter et nous ne sommes pas à l'abri, surtout que nous partageons une longue frontière avec la Zambie. Et la province du Haut-Katanga, à ce jour, a vacciné 53 000 632 personnes à la première dose et 14 784 personnes à la deuxième dose. Et nous comptons 43 176 personnes complètement vaccinées. Nous sommes vraiment à moins de 2% de la cible à vacciner. Il y a des sites qui sont fixes. On fera aussi des sites qui seront mobiles où les gens sensibilisés pourront recevoir le vaccin. On veut rapprocher les sites de vaccination chez les bénéficiaires.
Autre nouvelle sur Radio Okapi dans la province du Kwilu, un nouveau parti politique a vu le jour hier vendredi à Bandunduville. Il s'agit de l'Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable. Son président interfédéral veut former impérativement ses militants pour qu'ils sachent assumer des responsabilités dans le futur. Papi Boula s'est confié à Irène Boma.
Je suis allé à Kinshasa où je suis nommé président interfédéral de la POSEN pour la province politique du Kwilu. Je suis rentré dans ma ville natale, je ne pouvais pas me taire. Je devrais réunir d'abord tous ceux qui me connaissent pour leur parler du nouveau parti dont je suis membre maintenant. Raison pour laquelle nous sommes là avec tout le monde pour que nous puissions véhiculer le message, parler le même langage, agir dans le même sens et regarder dans la même direction pour le bien-être de notre parti, de notre province et de notre pays. Surtout, nous voulons faire les choses autrement. Actuellement, si vous posez la question à un des citoyens congolais, il vous dira qu'il ne comprend même pas ce que c'est un parti politique. La notion semble être confuse. Nous, les hommes politiques, nous ne voulons pas réellement dire à la population ce que c'est un parti politique. Mais APOSEM aujourd'hui est venu pour expliquer aux gens ce que c'est un parti politique. Le défi d'abord, c'est quoi? De donner à la population le goût de faire la politique, de former d'abord nos militants et nos cadres qui seront appelés à gérer le pays demain. Lorsque nous ne le formons pas, demain nous aurons affaire avec des cadres qui ne seront pas en mesure de gérer la chose publique. La première des choses d'abord, c'est rendre beaucoup plus responsables nos militants et conquérir le pouvoir pour l'exercer longtemps possible.
Actualité internationale.
Au Tchad, une manifestation contre la France a eu lieu ce samedi matin à l'appel de la coalition d'opposition Wakitama. La manifestation a été envahie par de nombreux lycéens qui ont fini par attaquer des symboles de la France. Sur leur pancarte, on pouvait lire « Non à la France, France dégage ». Mohamed Ben Zayed a été élu ce samedi matin à l'unanimité par les membres du Conseil suprême des Émirats arabes unis qui regroupe en son sein Abu Dhabi et Dubaï, déjà considéré comme le dirigeant. De facto, il succède à son demi-frère Khalifa Ben Zayed, chef de l'État décédé hier.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur général adjoint du Fonds pour l'inclusion financière à RDC, Patrick Nkongo, dit avoir financé deux institutions de Butembo avec plus d'un million de dollars américains. Objectif, assurer la promotion des femmes paysannes de la région. Il s'entretient avec Sadiki Aboubakar.
Monsieur Patrick Nkongo, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi l'objet de votre mission dans cette région?
Nous sommes ici à Butembo pour matérialiser le partenariat conclu en 2021 entre deux institutions, TID et SECAFEP, qui ont eu à bénéficier de nos financements. Et comme vous savez bien, la zone de Butembo ainsi que la zone de Beni sont des zones agricoles. Il y a SECAFEP qui est une coopérative qui œuvre dans le secteur agricole avec la femme paysanne. Donc nos fonds sont des destiné à soutenir les activités de la femme paysanne ici à Butembo qui œuvre dans le secteur agricole. Et avec TID, ce qui est une institution de microfinance universelle, donc ces fonds les aident à répondre aux besoins de financement de leurs clients à moyen terme, c'est-à-dire des clients qui demandent des crédits au-delà de 12 mois.
Si je comprends bien, ça veut dire que les femmes rurales ou les personnes à moindre revenu vont devoir, par exemple, bénéficier des crédits agricoles à travers ces financements.
Exact. Donc, nous mettons les fonds au niveau des institutions financières qui sont des intermédiaires pour que ces fonds arrivent aux bénéficiaires finaux.
Alors, moi, je suis un paysan, à l'exemple. J'entreprends des activités agricoles pour lesquelles j'ai besoin d'un appui. Qu'est-ce que je dois faire concrètement pour bénéficier de ces crédits? Et quels sont les devoirs qui sont les miens par rapport à ça et quels sont les droits qui seront les miens?
Premièrement, d'abord, si vous êtes membre d'une coopérative, c'est-à-dire vous devez adresser votre demande au sein de la coopérative. Et les devoirs par rapport à l'emprunteur est d'honorer les engagements. Et les droits, c'est accéder à des financements à moyen terme, c'est-à-dire au-delà des 12 mois pour financer des cultures spécifiques, notamment le cacao qui prend du temps et j'en passe. En ce qui concerne les institutions de microfinance, comme notamment TID, si vous êtes client, c'est la même approche, vous exprimez votre besoin et l'institution va suivre ces procédures afin que les crédits puissent vous être accordés.
Et là, qu'est-ce que, par exemple, vous, FPMSA, vous gagnez?
Premièrement, d'abord, nous gagnons en termes d'impact social parce que nous suivons les bénéficiaires finaux. L'institution nous transmet la liste des bénéficiaires de ces fonds et une fois sur place, on organise des visites pour s'assurer qu'il y a un impact social. Et deuxièmement, comme vous le savez bien, les crédits, il y a des coûts et on fixe un taux qui nous permet quand même de couvrir
un taux d'intérêt
exact que l'institution nous paye.
Qui est évalué à quel pourcentage par exemple?
Oui, les taux d'intérêt varient en fonction des risques identifiés. En moyenne, nous sommes entre 6 et 8%.
Alors, la région de Beni, de Butembo, qui est concernée par ces activités financières, c'est une région en proie à l'insécurité parce qu'il arrive des fois que quelqu'un commence une culture, mais arrivé au moment des récoltes, il y a incursion, il y a attaque et la personne fuit, tout est parti. Comment est-ce que vous avez évalué tous ces risques?
Premièrement, ce qui nous intéresse, c'est la résilience institutionnelle. Comme vous l'avez si bien dit, l'est du pays, il y a toujours l'instabilité. Il y a eu plusieurs crises ici, la crise de 2015-2016 où les taux d'échange est passé de 900 à 1500. Il y a eu la crise électorale, préélectorale, la crise post-électorale. Il y a eu Ebola, il y a eu Covid. Il y a un moment où la ville de Butembo était mise en quarantaine. Mais ces institutions ne sont pas tombées en faillite. C'est pour dire qu'il y a une résilience au niveau de l'écosystème, c'est-à-dire les clients de ces institutions, leurs fournisseurs, qui font en sorte que malgré les difficultés que vous avez énumérées, les clients ont mis en place des stratégies pour contourner ces différents risques.
Et au cas où, par exemple, une telle situation arrivait, il y a un client qui a effectivement pris un crédit et ne sait plus comment rembourser. Quel sera son sort?
Je crois que chaque institution financière a ses procédures et politiques de recouvrement. Donc, comme là, je viens d'être avec la SECAFEP, qui est une coopérative. Et vous conviendrez avec moi que la coopérative, c'est parmi des institutions solides qui essayent d'accompagner des clients dans de telles situations. Ils ont des procédures adaptées et ils n'hésitent pas à refinancer les clients, à accorder des moratoires, à mettre en place une ingénierie financière pour ne pas asphyxier les membres.
Patrick Nkongo, merci.
Merci, monsieur.
C'était l'invité de Radio Okapi, le directeur général adjoint du Fonds pour l'inclusion financière à RDC, Patrick Nkongo, a été interviewé par Sadiki Aboubakar. Et c'est la fin de cette édition d'information à Kinshasa. Il est 18h20. Infiniment merci de l'avoir écouté. Merci à Pierre Elamegi et Noël Aluzi Tukabambi qui m'ont accompagné.